Okay, on va commencer notre 23e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder encore les précurseurs de la Réforme, donc les Lollards. On se souvient que quand Wycliffe est décédé, il y avait toute une série d'Anglais qui avaient suivi ses enseignements et qui ont voulu poursuivre. Et bien entendu, ça a créé des réactions un petit peu partout en Angleterre. Alors, dans notre leçon précédente, on avait vu brièvement l'histoire du pré-réformateur anglais John Wycliffe. Alors, Wycliffe remettait en cause le principe de l'autorité de la hiérarchie dans l'Église. Ses partisans, les Lollards, sont à l'origine d'une révolte de paysans. Ils dénoncent l'Église établie. Bien entendu, ici, on veut parler de l'Église catholique. Alors, il était né dans une famille de petite noblesse du Yorkshire. John Wycliffe avait fait de brillantes études à Oxford. D'abord des études scientifiques, puis théologiques, et il devint docteur en 1372. Il devint professeur à Oxford, puis entra au service du roi d'Angleterre. À partir de 1374, il publie par fascicule une véritable somme théologique dans laquelle il expose sa doctrine. Alors, les points suivants dans sa doctrine. Concernant la hiérarchie ecclésiastique. Alors, il disait, la véritable Église est l'Église invisible des chrétiens en état de grâce. S'ils sont en état de péché mortel, les membres de la hiérarchie et le pape lui-même en sont exclus. Wycliffe préconise même le tirage au sort de la dignité pontificale. Pas sûr que le pape est d'accord avec ça. Dieu exerce directement, sans l'intermédiaire du pape, son droit sur les biens terrestres. Les rois n'ont de compte à rendre qu'à Dieu seul. Autre point qu'il défendait dans ses fascicules, la Bible est l'autorité suprême. Autre point concernant les indulgences, il disait qu'un péché ne peut être pardonné sans qu'il n'y ait expiation et c'est Dieu seul qui pardonne. Autre point, il disait, maintenant, il avait quand même maintenu une erreur dans sa théologie. Il croyait à la présence réelle du Christ dans la communion. Alors, on a reproché, bien sûr, à Wycliffe de semer le désordre social. Sa doctrine est condamnée en 1382 par trois synodes tenus à Londres par les Dominicains, mais lui-même n'est pas excommunié. Alors, ses idées, bien entendu, se sont répandues après sa mort grâce aux Lollards. Wycliffe envoie de sa propre autorité ses disciples prêcher dans le royaume d'Angleterre. Ils sont appelés Lollards. Ceux-ci sont largement écoutés. Leur prédication contribue dans le Sussex et le Kent à une révolte des paysans qui, massacrant nobles et clercs, envahissent Londres en 1381. Cette révolte est durement réprimée. Alors ça, c'est probablement une erreur. Les disciples de Wycliffe sont allés un peu loin et ont rendu leur défense de la foi un petit peu politique. Et ça a été réprimé par le roi d'Angleterre, bien entendu. Alors, leurs douze conclusions en 1395 condamnent l'Église établie, les sacrements, les prières pour les morts et la confession. Les Lollards veulent la pratique d'une foi simple et évangélique. Donc, tout homme doit avoir le libre accès aux Écritures dans sa propre langue. On doit aux Lollards deux traductions de la Bible en anglais. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre que si l'Éternel n'aura pas permis la venue de Wycliffe en Angleterre et ceux qui l'ont suivi, le peuple anglais n'aura pas hérité d'une Bible dans leur langue maternelle. Donc, ça aurait eu une influence énorme sur le développement politique, économique, social, religieux. Alors, des fois, on pèse pas toute l'importance de ces choses-là. Alors, en 1401, un décret anglais condamne les hérétiques Lollards au bûcher. Alors, eux, les catholiques et le roi d'Angleterre, à cause du fait que lui croyait que ça menaçait son royaume, il les condamne au bûcher en 1401. Alors, ceux qui continuaient à vouloir prêcher l'Évangile un petit peu partout en Angleterre, imaginez-vous que ça a créé de l'opposition à la fois de la part du roi et à la fois de la part de l'Église catholique, et souvent les deux qui fonctionnaient ensemble. Alors, bien entendu, Wycliffe a eu une grande influence posthume, donc une influence après sa mort. Les idées de Wycliffe ont un rayonnement considérable en Angleterre et hors d'Angleterre, particulièrement à Prague et dans toute l'Europe centrale, où elles inspireront un autre grand pré-réformateur, Jean Hus. Alors, voyez-vous, l'influence de l'Angleterre s'est rendue en Tchécoslovaquie et l'Europe centrale. À quelque part, ce qui se passait en Angleterre a eu une influence sur la foi dans l'Europe aussi. Alors, on sait que l'Angleterre, c'est une île, mais ça avait, on sait que les gens circulaient, voyageaient. Alors, ça a eu pour effet que Jean Hus, ça a eu aussi... la semaine prochaine, on va faire l'histoire de Jean Hus en une leçon, mais il faudrait étudier très longtemps pour tout étudier la chose en détail. Mais c'est pour dire que les idées circulent et que Jean Hus a fini par avoir... Alors, rappelons que longtemps après sa mort, le Concile de Constance, en 1415, le condamna comme hérétique. Alors, ça, c'est un concile catholique. Se sont rassemblés. Wycliffe était déjà mort. Le but, c'était de le condamner même après qu'il est mort. Alors, en 1528, imaginez-vous, il fait longtemps, là, il est mort, oui, tout à l'heure, on a regardé, 1384. Et en 1528, l'Église catholique déterre ses eaux, les brûle et les jette dans la rivière Swift. Alors, et c'est là qu'on voit que l'œuvre de ces bonhommes-là créait une immense réaction de la part de ceux qui ne voulaient pas que la vérité sorte. Alors, le mouvement Lollard annonce certaines idées de la réforme et dispose favorablement l'opinion à accueillir la séparation de l'Église d'Angleterre avec Rome, décidée par Henri VIII en 1534. Voyez-vous, il faut voir la main souveraine de Dieu là-dedans, qui est en train de préparer le peuple anglais à un certain accord pour quand la réforme va arriver, de se séparer complètement de l'Église catholique de Rome. Alors, on va regarder brièvement l'histoire des Lollards, donc les disciples de Wycliffe. La mort de Wycliffe n'arrêta pas le zèle de ses disciples. La puissance de la doctrine qu'il avait enseignée se montra dans le nombre de ceux qui la reçurent. L'Angleterre, à un certain moment, sembla tout entière gagnée aux vues du réformateur. On trouvait partout des Lollards, comme on les appelait, dans la chaumière des paysans, comme dans les châteaux des nobles. Ils se sentaient tellement appuyés par le sentiment presque général de la nation qu'en l'année 1395, ils adressèrent une requête au Parlement demandant qu'on abolît le célibat des prêtres, la transsubstantiation, les prières pour les morts, les offrandes faites aux images, la confession et plusieurs abus de l'Église romaine. Ils affichèrent leurs conclusions aux portes de Saint-Paul et de Westminster. Alors, imaginez-vous faire ça, présenter une requête pareille au gouvernement. Je suppose que vous vous imaginez que l'Église catholique a réagi à ça. Alors, le clergé romain, bien entendu, s'est ému de cette hardiesse. Arondel, celui qui était l'archevêque d'York et de Braybrook, évêque de Londres, demandèrent au roi Richard II d'intervenir. Celui-ci défendit au Parlement de discuter la requête des Wycliffe et menaça de mort les principaux d'entre eux s'ils persistaient à soutenir ce qu'ils appelaient ces détestables doctrines. Peu de temps après, Richard fut détrôné par son cousin, le duc de Lancaster, et mourut en prison. Le duc de Lancaster monta sur le trône sous le nom d'Henri IV. C'est lui dont le père avait été l'ami et le protecteur de Wycliffe, et les Lollards espérèrent que le nouveau roi leur serait favorable. Ils furent cruellement déçus. Arondel, qui avait aidé Henri IV à s'emparer du trône, lui avait dit, en le couronnant, « Pour consolider votre trône, gagnez le clergé et abandonnez les Lollards. » Le roi répondit, « Je serai le protecteur de l'Église, bien entendu, il voulait dire l'Église catholique. » Il le fit voir bientôt. Jusqu'au commencement du 15e siècle, il n'y avait eu en Angleterre aucune loi qui condamna les hérétiques à être brûlés. Partout ailleurs, le pouvoir civil avait abandonné sur ce point son droit au pouvoir spirituel, c'est-à-dire au clergé. Afin de prouver à l'archevêque sa sincérité, le roi rendit un édit ordonnant que tout hérétique impénitent serait brûlé vif pour épouvanter les autres. En même temps, les prêtres firent courir et répandirent partout des bruits de complots et de desseins dangereux formés par les Lollards. Le Parlement confirma l'édit en l'an 1400. Brûler les hérétiques devint aussi chose légale en Angleterre. L'édit portait que la sentence serait exécutée publiquement en un lieu élevé aux yeux du peuple. Dès que le primat, c'est-à-dire l'archevêque de York et les évêques, eurent ainsi liberté d'agir, ils se mirent activement à poursuivre leur œuvre des ténèbres. Leur première victime fut un ministre pieux de Londres. Il enseignait ouvertement les doctrines prêchées par Wycliffe et avait osé dire, au lieu d'adorer la croix sur laquelle Christ a souffert, j'adore Christ qui a souffert sur elle. Il avait comparu à Newbury. Là, par crainte des souffrances qu'il aurait à endurer, il s'était d'abord rétracté. Mais en liberté, il était retourné à Londres. Peu après, il reprit courage, une nouvelle force lui fut donnée, et il se remit à annoncer ouvertement l'Évangile et à protester contre les erreurs de Rome. Il fut de nouveau saisi, jeté en prison et condamné au bûcher comme hérétique relapse. On le traîna à Saint-Paul. Là, il fut dégradé de la prêtrise, puis l'archevêque le remit à la bonté du grand maréchal du royaume, car il est défendu à l'Église de verser le sang. La bonté du grand maréchal ne lui manqua pas. Il fut brûlé et glorifia Christ dans sa mort. Quelle hypocrisie des chefs religieux! Croyait-il vraiment disculper l'Église de verser le sang tout en le faisant répandre par la main de ceux qu'elle s'assujettissait? Le second martyr était un homme, était un simple artisan nommé John Badby. Il était accusé d'avoir nié la transsubstantiation. Il fut conduit à Londres pour y être jugé. Outre les deux archevêques de York et de Canterbury, il y avait comme juge plusieurs évêques et le duc d'York, chancelier du royaume. Arundel se donna beaucoup de peine pour convaincre Badby que le pain consacré devenait véritablement le corps de Christ. Les réponses de l'accusé furent simples et claires et montrèrent un grand courage et une fermeté inébranlables. « Si réellement, dit-il, chaque hostie, après que le pape l'a consacrée, et le corps du Seigneur, il y a donc plus de 20 000 dieux en Angleterre. Je crois en un seul Dieu tout-puissant. » Badby, ne voulant pas se rétracter, fut condamné à être brûlé. Au moment où le bourreau mettait le feu au boucher, le prince de Galles, héritier de la couronne, vint à passer. Peut-être n'était-il pas sans l'intention de voir ce spectacle extraordinaire. Quoi qu'il en soit, il fut frappé de voir le martyr paisible et tout à fait impassible attaché au poteau, tandis que le bourreau attisait le feu. Les flammes s'approchaient du prétendu hérétique. Déjà, elle avait atteint ses pieds et l'on entendit le mot « grâce » sortir de ses lèvres. Le prince, supposant qu'il implorait la grâce de la part de son juge, ordonna d'écarter le feu. « Veux-tu abandonner ton hérésie, demanda-t-il, et te soumettre à la foi de la Sainte Mère Église? Si tu le fais, tu auras une pension annuelle sur la cassette royale. » Mais Badby resta inébranlable. Il n'avait pas fait appel à la grâce des hommes, mais s'était recommandé à la grâce de Dieu. Irrité par la constance de ce chrétien, le prince commanda qu'il fût rejeté dans les flammes et le courageux martyr y trouva bientôt la fin de ses souffrances. Encouragé par l'appui que le roi lui prêtait, le clergé rédigea une suite d'articles que l'on nomme la Constitution d'Arundel. Il défendait sous les peines les plus sévères la lecture de la Bible et des livres de Wycliffe et appelait le pape, non un simple homme, mais un vrai Dieu sur la terre. Imaginez-vous, c'était épouvantable. Appeler le pape un vrai Dieu sur la terre. La persécution sévit alors partout dans toute l'Angleterre. Il y avait dans le palais archiépiscopal une prison que l'on nommait la Tour des Lollards. Elle fut bientôt remplie de prétendus hérétiques. Un grand nombre de ces martyrs souffrirent la torture destinée à leur faire abjurer leur foi avant d'être livrés à une mort cruelle. Plusieurs gravèrent sur les murs de leur prison l'expression de leur douleur et de l'espérance qui les soutenait. On y lit encore ces mots tracés par l'un d'eux. Jésus, amor meus, c'est en latin, Jésus, mon amour. Témoignage touchant de la foi qui l'animait, rendu à l'objet suprême de ses affections. Le roi Henri V avait succédé à son père. C'est lui qui avait été le témoin du supplice de Bad B, mais la constance jusqu'à la mort du martyr n'avait eu aucun effet sur son cœur. La persécution continua à sévir contre les Lollards. Ce ne fut pas seulement contre les petits, mais des personnes d'un rang élevé qui furent frappées. Parmi elles, l'une des plus illustres fut Sir John Oldcastle, qui par son mariage avec Lady Cobham était devenu Lord Cobham. Il avait été un vaillant guerrier, s'était distingué dans maints combats, et avait été un favori du roi Henri IV. Il avait aussi suivi le prince de Galles dans sa vie de dissipation et de péché. Mais la grâce de Dieu l'avait saisi. Nous ignorons à quel moment de sa vie. Nous savons seulement qu'il devint l'ami et le disciple de Wycliffe et fut zélé pour répandre les doctrines que celui-ci enseignait. Après la mort de Wycliffe, il resta dévoué au Lollard. De même qu'il avait servi son roi par son courage dans les combats, de même il se montra plein de hardiesse pour le service de Christ et de ses disciples. En tant que lord, il avait un siège au Parlement. Là, il ne cacha point sa foi et son opposition à Rome. Il alla même jusqu'à dire qu'il serait bon pour l'Angleterre que la juridiction du pape s'arrêtât à Calais et ne passât pas la mer. Parole bien hardie à prononcer dans un tel lieu et dans un tel temps. Cobham faisait faire de nombreuses copies des écrits de Wycliffe et les remettait aux pauvres prêtres qu'il recevait dans son château afin qu'ils les répandissent partout où ils iraient prêcher l'Évangile. Lui-même assistait à leurs prédications revêtu de son armure, la main sur son épée et prêt à les défendre contre quiconque viendrait les troubler. Tant que le roi Henri IV vécut, il ne permit pas au prélat de s'attaquer à son ancien favori. Il en fut autrement après sa mort. Henri V, qui avant d'être roi, avait mené une folle vie de dissipation et de péché, devint, en montant sur le trône, zélé pour l'Église catholique. Arundel et les évêques auraient bien voulu emprisonner ou brûler tous les prédicateurs, mais ils pensèrent qu'ils arriveraient plus aisément à leur fin en faisant taire ou jeter en prison, sinon mettre à mort, leur protecteur, Lord Cobham. Ils virent le moment propice. Ils accusèrent Cobham de tenir et de répandre plusieurs hérésies et demandèrent au roi de le faire comparaître devant lui. Le roi leur répondit qu'il essaierait de persuader Cobham de renoncer à ses nouvelles opinions. Il le fit donc venir et l'exhorta à se soumettre à la Sainte Mère, l'Église catholique. Alors Cobham répondit, « Je suis toujours prêt, très excellent prince, à vous obéir, d'autant plus que je vous reconnais pour un roi chrétien et un ministre de Dieu. Après Dieu, je vous dois une entière obéissance et je m'y soumets. Pour ce qui est du pape et de son clergé, je ne leur dois en vérité ni hommage ni service parce que je sais par les Écritures que le pape est le grand antichrist, l'adversaire déclaré de Dieu et l'abomination placée dans le lieu saint. Ce discours hardi déplut au roi. Il ne voulut plus intervenir en faveur de son ancien ami et les évêques purent agir à leur guise. Arondel somma Cobham de comparaître devant lui le 2 septembre afin de répondre aux accusations d'hérésie portées contre lui. Agissant d'après sa déclaration qu'il ne devait ni hommage ni service au pape et à ses subordonnés, il ne tint aucun compte de la citation de l'orgueilleux prélat. Arondel la fit afficher aux portes du château de Carling, qu'habitait Cobham, et à celle de la cathédrale de Rochester. Les amis et les vassaux de Cobham les déchirèrent aussitôt. Arondel avait une autre arme. Il excommunia le courageux gentilhomme. Ceux qui savaient ce que comportait la grande excommunication pouvaient bien être effrayés de l'acte audacieux du fier champion de Rome. Sans se laisser abattre ni décourager, Lord Cobham écrivit une confession de foi sur le modèle de ce que l'on nomme le symbole des apôtres, mais exprimé essentiellement en paroles de l'Écriture sainte. Il la porta au roi en suppliant de l'examiner. Henri ne voulut pas même la regarder. « Je ne recevrai pas cet écrit, dit-il. Remettez-le à vos juges. » Ces juges, c'était l'archevêque et ceux qui l'assistaient. Le roi, poussé par eux, envoya un de ses officiers pour se saisir du vieux guerrier. Si c'eût été un envoyé du clergé, la question se serait décidée par les armes, selon la coutume de ces temps. Mais la sommation venait du roi, à qui Cobham se sentait tenu d'obéir. Il suivit l'officier et fut incarcéré à la Tour de Londres. Le 23 septembre, il fut amené dans l'église de Saint-Paul devant l'archevêque et les évêques de Londres et de Winchester et d'autres ecclésiastiques. L'archevêque lui offrit l'absolution s'il voulait se soumettre et confesser ses erreurs. Cobham répliqua en lisant un exposé de sa foi dont il présenta une copie à Arondel. Mais celui-ci, avec irritation, s'écria « Il faut croire à ce que la Sainte Église de Rome enseigne, sans exiger l'autorité de Christ. » Oh mon Dieu. « Croyez, croyez, lui disaient les prêtres. « Je suis prêt, dit Cobham, à croire tout ce que Dieu veut que je croie, mais je ne croirai jamais que le pape ait le droit d'enseigner ce qui est en opposition avec les Saintes Écritures. » Il fut reconduit à la tour, et la cour s'ajourna au lundi suivant. Cette fois, elle se réunit dans le couvent des Dominicains. Une foule de prêtres, de moines, de chanoines, d'ecclésiastiques, de vendeurs d'indulgences s'y trouvèrent rassemblés et recueillit le prisonnier par un torrent d'injures. On lui offrit de nouveau l'absolution, à condition qu'il s'humiliât et confessât ses hérésies. « Non, vraiment, répondit-il, car je ne vous ai jamais offensé. » Puis, accusant avec véhémence le pape et les princes de l'Église, il s'écria « Votre domination est le poison de l'Église. Qu'entendez-vous par ce poison ?» demanda Arondel. « Vos possessions et vos honneurs. » Considérez ceci, vous tous qui êtes présents ici, Christ était doux et miséricordieux. Le pape est un tyran et un orgueilleux. Rome est le nid de l'Antichrist et de ce nid, sortent ses enfants. Alors eut lieu une scène étrange et des plus touchantes. Cobham, ayant retrouvé son calme, se jeta à genoux sur les dalles et, levant ses mains vers le ciel, il dit « Je me confesse à toi, ô mon Dieu, Dieu vivant et éternel. Je reconnais que dans ma fragile jeunesse, je t'ai gravement offensé par l'orgueil, la colère, l'intempérance et l'impureté. Dans ma colère, j'ai blessé plusieurs hommes, j'ai commis beaucoup d'horribles péchés. C'est pourquoi, ô Seigneur, j'implore ta miséricorde. » Puis, se relevant, le visage baigné de larmes, il se tourna vers les assistants et dit, « Ainsi, bonnes gens, pour avoir violé la loi de Dieu, ces hommes ne m'ont jamais maudit. Mais maintenant, à cause de leur propre loi et de leur tradition, ils me traitent, et d'autres avec moi, de la manière la plus cruelle. » Lorsque la cour fut remise de l'émotion causée par cette scène, elle examina le noble témoin de Christ, touchant sa foi, et sur les quatre points qui formaient le fond de l'accusation portée contre lui. Le premier concernait la présence réelle de Christ dans l'Eucharistie. Cobham s'en tint aux Écritures, tandis que ses adversaires en appelaient aux décisions de l'Église. « Que pensez-vous de la Sainte Église? » lui demanda Arundel. « La Sainte Église, répliqua Cobham, est l'ensemble de tous ceux qui seront sauvés et dont Christ est le chef. « Que dites-vous du pape? » demanda un des docteurs. « Lui et vous tous ensemble, répondit Cobham, vous composez le grand antichrist. Le pape est la tête, vous, les évêques et les prêtres et les prélats et les moines, vous formez le corps et les moines mendiants sont la queue, car ils cachent par leur sophisme la méchanceté de tous. L'évêque de Londres dit, « Vous savez bien que Christ est mort sur une croix matérielle. » « Oui, dit Cobham, et je sais aussi que notre salut n'est pas venu par cette croix matérielle, mais par celui seul qui est mort sur cette croix. Et je sais que le bienheureux saint Paul ne se glorifiait en aucune croix que dans les souffrances et la mort de Christ. » L'habile primat espérait encore arriver à convaincre par ses sophismes et ceux des prêtres le vieux chevalier. Mais tous ses efforts furent vains. « Je ne puis croire autrement que ce que j'ai dit. Faites de moi ce que vous voudrez, » dit Cobham. Comme la nuit approchait, l'archevêque se leva et dit que l'accusé devait se soumettre à l'Église ou que la loi aurait son cours. Le visage tout en larmes, Cobham dit encore, « Je ne puis autrement. Je ne désire pas votre absolution. C'est du pardon de Dieu que j'ai besoin. » Alors tous se levèrent et se découvrirent, et le primat lit à haute voix la sentence de mort. Lorsqu'il eut terminé, le courageux chevalier dit, « C'est bien, vous pouvez tuer mon corps, mais vous n'avez aucun pouvoir sur mon âme. J'en appelle à la grâce de mon Dieu éternel. » Il s'agenouilla encore une fois et pria pour ses ennemis. Il fut condamné à être brûlé comme hérétique et ramené à la tour. 50 jours de délai furent accordés avant l'exécution du jugement. Dans l'intervalle, ses ennemis ne restèrent pas inactifs. Les lois iniques de l'Église et de l'État avaient mis leurs victimes entre leurs mains. Que pouvaient-ils désirer de plus? Ils tenaient à leur faire abjurer leur soi-disant erreur. Mais comme Cobham ne le voulait ni le pouvait, ils le firent pour lui, et par une fausseté aussi méchante qu'abominable, ils prétendirent qu'il avait rétracté ses hérésies et rendu hommage à Jean XXIII, l'un des trois papes rivaux et un homme exécrable s'il en fut. Mais peu de personnes crurent à leurs mensonges. Cependant, avec l'aide de quelques amis et la connivence du gouverneur de la tour, Cobham réussit à s'échapper et se réfugia dans le pays de Galles. Les Lollards n'avaient nullement été découragés par la captivité de Cobham. Ils avaient continué à répandre leur doctrine avec le plus grand zèle. Mais les prêtres, exaspérés, voulaient arrêter leur progrès et mettre un terme à la contagion de leur enseignement, comme ils disaient. Ils firent courir des bruits de complot et d'un soulèvement général des Lollards. Lord Cobham, disait-il, est leur chef et leur but est de détrôner le roi, de tuer la famille royale, de renverser le gouvernement, de détruire toutes les cathédrales et de confisquer les biens de l'Église. Le roi s'émut à la pensée du danger prétendu qu'il courait et rendit des lois encore plus sévères contre les malheureux confesseurs de Christ. Une grande réunion de prédication devait avoir lieu hors des portes de Londres. On la signala au roi comme un commencement d'exécution du complot. Il sortit en personne à la tête d'une armée contre cette foule désarmée d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'offrirent aucune résistance. Plusieurs furent taillés en pièces, d'autres furent faits prisonniers, parmi eux Sir Roger Ashton, un des fidèles compagnons de Wycliffe, et 28 autres qui furent exécutés comme traîtres. Quant à Cobham, on offrit 1000 marks de récompense à qui le livrerait, vivant ou mort. Mais il était si grandement estimé que personne, durant les 4 années qu'il erra de lieu en lieu, ne mit les mains sur lui. À la fin, il fut trahi par Lord Powys, qui obtint le prix du sang du noble martyr. On le ramena à la tour et il fut appelé à comparaître devant les lords qui le condamnèrent à une mort cruelle comme coupable de trahison et d'hérésie. Il devait être brûlé à petit feu. Le jour de l'exécution arriva. On le fit sortir de prison les mains liées derrière le dos. Une sainte joie brillait sur son visage. La sentence fut exécutée, accompagnée de toutes les marques possibles d'ignominie. On plaça sur une clé l'ancien favori du roi Henri IV et on le traîna à travers les rues jusqu'à Saint-Gilles. Beaucoup de personnes de qualité se trouvaient là comme spectateurs, ainsi qu'une foule du peuple. Arrivé au lieu du supplice, Cobham s'agenouilla et pria encore pour ses persécuteurs. Puis, il se tourna vers la foule et l'exhorta sérieusement à suivre les enseignements de la Sainte Parole de Dieu et à se garder de ces faux docteurs dont la vie et la conduite étaient en si pleine opposition avec Christ et son esprit. Comme on lui offrait l'assistance d'un prêtre, il refusa en disant « C'est à Dieu seul qui est présent maintenant comme toujours que je veux confesser mes péchés. C'est à lui que je veux en demander le pardon. » Beaucoup des assistants fondaient en larmes et prièrent avec lui et pour lui. En vain, les prêtres affirmaient qu'il souffrait comme hérétique et ennemi de Dieu. Le peuple croyait Cobham plus que les prêtres. Par un raffinement de cruauté, on l'avait suspendu par des chaînes attachées autour de son corps, au-dessus d'un feu qui brûlait lentement, afin que le supplice durât plus longtemps. « Rendez grâce à Dieu » furent les dernières paroles que l'on put entendre sortir de la bouche du martyr dans ses souffrances indicibles. Enfin, la mort y mit un terme et l'esprit bienheureux du fidèle témoin allait auprès du Seigneur en attendant le moment de la glorieuse résurrection. Ainsi, dit un chroniqueur, est allé reposer le vaillant chevalier Sir Oldcastle sous l'autel de Dieu, qui est Jésus-Christ avec la Sainte Compagnie, de ceux qui, dans leur royaume de patience, ont souffert une grande tribulation et la mort pour sa parole et son témoignage. Ils attendent auprès de lui que leur nombre soit complet et la pleine rédemption des élus. Depuis 7 ans, les prisons de Londres regorgèrent de Wycliffites qui furent livrés sans défense à la haine de leurs ennemis. Qu'ils soient pendus pour offense au roi et brûlés pour offense à Dieu, disaient les prêtres de Rome. Ceux qui échappaient à la prison et à la mort étaient forcés de se réunir en secret. Mais Dieu se servit de cette victoire apparente de l'ennemi pour affaiblir dans les esprits d'un grand nombre la puissance et l'influence de la papauté et pour frayer ainsi la voie à la réformation dans le siècle suivant. La piété, la patience et la fermeté inébranlable des témoins de Jésus faisaient une impression profonde sur les cœurs de plusieurs, tandis que la rage de persécution y semait le mécontentement et le doute. Henry Chicheley, qui succéda à Arundel comme archevêque de Canterbury, le dépassa en zèle pour l'extermination des Lollards. Arundel semble avoir été frappé par un jugement de Dieu. Peu de temps après avoir prononcé la sentence de mort de Lord Cobham, il fut atteint d'une maladie incurable de la gorge qui le conduisit en peu de temps au tombeau. Alors nous verrons plus loin comment d'autres témoins de Christ en Angleterre, souffrir pour son nom. Alors, je vous ai mis des petites questions, comme d'habitude. Et l'autre page, à la page 14, vous avez les principales applications qu'on peut faire de cette brève étude-là. Alors, admirons le courage que Dieu donna aux Lollards pour persévérer dans leur promotion de la vérité biblique et de la dénonciation des erreurs doctrinales des ennemis de l'Évangile. Deuxième application, rendons grâce à Dieu pour ces personnes fidèles à qui nous devons énormément. Troisièmement, prions pour que nous ayons la même attitude pour défendre notre très précieuse foi et honorer notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que sa sainte et merveilleuse personne soit louée et exaltée éternellement. Amen.